gagne les élections contre un peu l'establishment politique classique, même si George Weah a été lui-même quand même impliqué en politique depuis longtemps. Mais battre un ancien vice-président, c'est remarquable. Donc ça fait penser un peu à Macron en France, Trump aux États-Unis. Donc on est un peu sur cette vague des outsiders qui battent les représentants de l'establishment le plus ancré dans les pays. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est fort intéressant.
René Lecq, justement, la révolution de palais, on a vu un exil, une simple coalition. Des chefs d'État qu'on pensait jusque-là indétrônables, ils ont quitté le pouvoir dans des circonstances bien différentes. Quelle est l'importance de ce départ ? De ces départs ?
De celui de George Weah ou des départs de
Mugabe ? Non, des départs de Mugabe, de Jammeh.
Yahya Jammeh, je dois dire que dans le cas de Yahya Jammeh, pour moi, ce qui est le plus marquant, au-delà du fait que ça a été un président qui est resté plusieurs décennies au pouvoir et qui a géré le pays avec une main de fer, voire a installé une dictature en Gambie, ce qui a été le plus intéressant de mon point de vue, c'est la manière dont les Africains eux-mêmes se sont organisés au niveau de la CEDEAO pour créer les conditions de son départ, pour l'obliger à partir. Et je crois que ça, c'est une première en Afrique, surtout les conditions dans lesquelles cela s'est passé, avec le rôle en particulier que le Sénégal, qui a un intérêt direct, qui a des intérêts directs en Gambie, a géré, a assuré le leadership de ce mouvement panafricain. Donc moi, panafricain, oui, mais ouest-africain en particulier. Donc de ce point de vue-là, je pense que dans le cas de Yahya Jammeh, c'était ça la question la plus importante. À mon avis, c'est la manière dont s'est fait la transition, la manière dont il a été obligé de quitter le pays. Bon, pour Mugabe, bon, c'est un peu plus des dynamiques internes. Ensuite, l'autre, le troisième, c'était Dos Santos. Mm-hmm. Là aussi, c'est aussi beaucoup de conditions internes, de pressions internes du parti lui-même. Je sais qu'il y a plusieurs théories sur les raisons de son départ, y compris des théories qui font penser, qui font courir en tout cas un minimum de rumeurs sur son état de santé également.
Timothée Donogmaï, cette évolution politique est-elle un signe que le continent prend le chemin d'une ouverture démocratique?
Je ne sais pas, parce que dans le cas de la Gambie, on a vu les pays ouest-africains se mobiliser à travers la CEDEAO pour faire partir Jammeh. Mais dans le cas du Zimbabwe, par contre, on a eu du mal à savoir ce que les Africains pensaient, les chefs d'État africains pensaient de cette situation-là.
Et notamment avec la position d'Alpha Condé.
Voilà. Mm-hmm. Il y a eu des appels à respecter la loi, ce qui n'était pas très clair. Est-ce que c'était une prise de position contre Mugabe ou contre les putschistes qui disent qu'ils ne le sont pas? Donc, l'Afrique avait, au niveau de la Gambie, pris un bon départ, mais là, avec le Zimbabwe, on a vu que les choses ont flotté. Bon, comme c'était, que l'on dit, une révolution de palais, donc ça a aussi permis de gérer la crise là-bas. Ça aurait été une autre fin si c'était des outsiders qui venaient pour prendre le pouvoir. On aurait probablement assisté à un bain de sang. Mais là, comme c'était dans la grande famille de la ZANU-PF, des anciens combattants de la guerre de libération, dont tout s'est rendement mené. Et Mugabe se retrouve avec une retraite dorée pour passer ces derniers jours.
Justement, Mnangagwa, Barrow, Lorenzo, un goût d'inachevé ou l'espoir d'une nouvelle génération, René Lecq?
Oui, je pense que bon, on peut être optimiste hein, quand on voit des dinosaures, comme vous les appeliez tout à l'heure, souvent des autocrates, pour ne pas dire simplement des dictateurs quitter un pouvoir, même s'ils sont remplacés par des gens qui leur sont plus ou moins proches. Vous savez, on ne sait jamais comment les choses se passent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Angola. On a le sentiment que tous les éléments clés du système Dos Santos sont en train de sauter les uns après les autres. Hein. Ça a commencé par sa fille, comme l'a indiqué votre reportage, mais il y a également son fils, y compris son fils qui gère l'un des fonds d'investissement les plus importants du pays. Donc, je crois qu'on ne sait jamais ce qui se passe après, mais c'est toujours une bonne chose pour l'Afrique et pour n'importe quel pays dans le monde quand on se débarrasse d'autocrates, même si on n'est pas sûr de par quoi on le remplace.
Notre prochaine escale, c'est la République démocratique du Congo. Le pays a connu cette année une abondante actualité politique, favorisée par la fin du mandat du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et la crise liée à sa succession. La région des Kasaï, dans le centre du pays, a été le théâtre de violences dénoncées par plusieurs ONG. Le point avec John Linden.
2017 a commencé en RDC sur une lueur d'espoir au lendemain de la signature d'un accord entre pouvoir et opposition sur la tenue des élections. Cet accord, laborieusement conclu grâce à la médiation de l'épiscopat congolais, devait permettre aux deux partis de co-gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre 2016 et l'élection de son successeur.
Moi, cependant.
S'il y a échec, c'est qu'il n'y a pas consensus. Et donc, nous rentrons simplement dans l'application de la Constitution, avec éventuellement des agitations que nous avons déjà expérimentées et que nous allons devoir gérer.
Depuis sa signature, cet accord n'a véritablement jamais été mis en œuvre, opposition et pouvoir se renvoyant la responsabilité de son échec.
Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nanga ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés.
Entre-temps, le débat sur la présidentielle continue. Sous pression internationale, notamment celle des États-Unis, qui ont réitéré leur position lors de la visite en RDC de Nikki Haley, ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Finalement, la date de la présidentielle est fixée au 23 décembre 2018 et c'est dans cette perspective que le Parlement a adopté la réforme électorale le 16 décembre dernier. Si elles ont lieu comme prévu, ces élections se dérouleront sans l'opposant historique Étienne Tshisekedi. L'ancien président de l'UDPS, qui a joué un rôle majeur dans la politique congolaise depuis plusieurs décennies, est décédé le 1er février à Bruxelles. 2017 a été une année particulièrement sanglante en RDC, notamment dans la région du Grand Kasaï, avec de violents affrontements entre les miliciens de Kamuina-Nzapu et les forces armées nationales. Bilan, plusieurs centaines de morts. Dans cette même région, deux experts de l'ONU sont kidnappés le 12 mars. Leurs corps seront retrouvés 16 jours plus tard dans une fosse commune. Plus d'une dizaine de charniers, d'après l'ONU, ont été découverts cette année dans le Kasaï. Ces violences ont donné lieu à une crise humanitaire. En avril, l'ONU a lancé un appel de fonds de près de 64,5 millions de dollars en urgence pour y faire face.
3 000 morts, 1,3 million de déplacés, c'est un lourd bilan. Timothée, donne-moi vos réactions.
Oui, je sais que le Congo a besoin de passer cette étape des élections et donc de se mobiliser pour faire face à toutes sortes de problèmes qui embrasent le pays. Malheureusement, l'accord de la Saint-Sylvestre qui était censé mettre un terme à cette confusion est interprété différemment par les partis. Du coup, on est à la case départ. Et avec peu d'espoir de voir un dénouement.
Le pays est plongé dans une crise constitutionnelle depuis le report des élections de Joseph Kabila. René Lec, cette incertitude politique était liée aux violences.
Oui, en fait, c'est ce que Alice, une partie de la classe politique pense, et même un certain nombre d'observateurs. Mais vous savez, pour préparer cette émission, je regardais un peu quelle était la prospective 2017, pour l'année 2017. Donc, il y a un an, qu'est-ce qu'on pensait qui allait se jouer essentiellement en 2017? Et la grande question que je retrouvais un peu partout, c'est est-ce qu'en fin 2017, Kabila sera encore président? Sont encore le quatrième président, toujours le quatrième président du Congo. Apparemment, ça reste, c'est une évidence, c'est encore le cas, et au moins pour encore un an, semble-t-il. Mais je crois que le plus important aujourd'hui pour régler cette crise-là, c'est que le président Kabila réponde à la demande des médiateurs et notamment de l'Église, qui lui demande de manière la plus claire et sans équivoque d'annoncer qu'il ne sera pas candidat aux élections de décembre 2018. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas fait malgré l'insistance des médiateurs.
Je vous propose deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Bouaki de Kinshasa. Les vieux dirigeants partent, mais il faut des départs soignés, qu'ils quittent par la voie des urnes voulues démocratiquement par le peuple, comme au Burkina Faso, et non par un coup d'État ou un coup de force comme au Zimbabwe. Il y a un goût d'inachevé à la démocratie africaine. Deuxième commentaire de Kevin Kanyinda de Lumumbashi. Pour moi, l'événement le plus marquant de l'année, c'est la mort du leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Sa mort nous a beaucoup frappés. Je lui rends hommage. Washington Forum revient après cette courte pause. De retour avec vous dans Washington Forum, ce jeudi coup d'œil rétrospectif sur l'année 2017 en Afrique. Nous avons déjà parlé des grandes transitions politiques et de la crise en RDC, mais 2017 a aussi été marqué par de nombreuses attaques terroristes menées sur le continent africain. Plus de 340 attentats ont été perpétrés depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord, essentiellement par des mouvements islamistes. Dili Diko fait le bilan de la terreur en Afrique en 2017 dans ce reportage.
En 2017, le terrorisme a fait plus de 2600 victimes en Afrique. Le continent est en première ligne des attaques terroristes en raison, entre autres, de la faiblesse des dispositifs de sécurité, du manque de ressources et de la grandeur du territoire. En Afrique, la majorité des attentats sont perpétrés par trois groupes de terroristes islamistes, Al-Shabaab, Boko Haram et les groupes islamistes sévissant dans le Sahel. Désormais, les groupes armés opérant dans la région sahélo-saharienne ne se limitent plus aux zones reculées, ils multiplient les attaques dans les grandes villes. Au Mali, le 18 janvier 2017, une attaque revendiquée par Al-Mourabitoun fait 77 morts. Toujours au Mali, le 18 juin 2017, les djihadistes s'en prennent à un lieu de villégiature situé dans les environs de Bamako, le campement Kangaba, bilan 6 morts. Au Burkina Faso, le 14 août 2017, une attaque de l'ACMI fait 19 morts au restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou. Au Niger, le terrorisme a fait 78 morts cette année. En ce qui concerne Boko Haram, malgré un recul considérable des attaques, le groupe mené par Shekau continue encore les raids et les attentats suicides principalement au Nigeria et au Cameroun. Al-Shabaab est le groupe djihadiste le plus meurtrier en Afrique et l'attentat de Mogadiscio ayant fait 358 morts le 14 octobre 2017 a fait de la Somalie le pays africain le plus touché par le terrorisme en 2017 avec un bilan de 883 morts.
Et toujours avec moi sur ce plateau, Timothée Donongmaï, le chef du service francophone de VOA Afrique, ainsi que René Lé, consultant politique. Timothée Donongmaï, vos réactions face à ces images effroyables?
Ce qui me frappe, c'est la situation en Somalie, où le gouvernement somalien, avec l'appui de la communauté internationale, a réussi à chasser Al-Shabaab de Mogadiscio et de la plupart des régions du pays. Mais Al-Shabaab qui continue de sévir, qui continue de poser une grave menace à la Somalie.
René Lake, outre les mouvements islamistes, il y a l'émergence d'autres groupes armés, comme en RDC, avec la rébellion des Kamuina Nsapu. Marc, une réaction, un commentaire à ce sujet?
Oui, je pense que la peur principale que l'on devrait avoir, c'est les alliances qui sont en train de se créer entre différents groupes terroristes sur le continent, et notamment en ce qui concerne le Sahel. Et je crois que c'est lié aussi à une question géopolitique internationale plus large, hein, c'est que en Syrie et en Irak, l'État islamique est en forte perte de vitesse, y compris même en Libye, certaines positions importantes ont été démantelées. Donc le résultat de tout cela, c'est que ça met plus de pression sur l'Afrique de manière générale, sur le Sahel en particulier.
Justement, je voudrais rebondir sur le Sahel. Récemment, on a vu la France renforcer son engagement dans cette zone au Sahel, dans la lutte contre les groupes terroristes. Est-ce que c'est une solution viable pour venir à bout de la menace terroriste sur le continent?
Oui, je pense qu'il n'y a pas que la France. Les États-Unis aussi s'impliquent énormément en ce moment. L'Union européenne, en tant qu'Union européenne, s'implique. Il y a eu un sommet qui a été organisé à ce sujet-là, parce que les gens ont bien conscience que toutes les victoires qui sont remportées en Syrie, en Irak et même en partie en Libye, l'une des répercussions directes, ça augmente la menace dans le Sahel. Il y a eu ce regroupement de trois groupes djihadistes en Mauritanie, et ils ont tout de suite, l'une de leurs premières actions, c'est de sortir une liste avec les 11 pays qui constituent les pays ennemis. Il y a 11 pays, dont sur les 11, je crois, si je me souviens bien, il y en a 8 ou 9, peut-être même 7 ou 8, qui sont des pays africains, pour l'essentiel les pays du Sahel. Donc je crois qu'il est clair que 2018, la menace terroriste dans cette région va être une réalité. Il va falloir trouver les moyens d'y répondre.
Vous avez été nombreux cette année à commenter la séquence à venir, le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye, a de nouveau mis sur le devant de la scène la question de l'immigration africaine vers l'Europe. L'Union européenne affirme que son plan d'action pour atténuer la crise migratoire est en train de porter ses fruits, mais pour Amnesty International, la collaboration du bloc avec des groupes libyens impliqués le rend complice de violations flagrantes des droits de l'homme. C'est un récit de Jacques Aristide.
Les arrivées de migrants en Europe via la Libye ont connu une baisse d'un tiers au cours du troisième trimestre 2017. Les dirigeants européens s'en réjouissent. Mais le coût humain est horrible, d'après Amnesty International.
L'Europe a décidé de coopérer avec les autorités libyennes en sachant que les migrants et les réfugiés ont été victimes de tortures, d'abus, de détentions en Libye.
En novembre, une vidéo où l'on voit des migrants vendus apparemment comme esclaves a choqué le monde.
Permettez-moi de répéter mon appel pour imposer les sanctions de l'ONU contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains.
Les pays européens offrent plusieurs millions de dollars et des formations aux gardes-côtes libyens et aux groupes armés sous le contrôle du gouvernement d'Union de Tripoli pour sécuriser sa frontière maritime. Cela rend l'Europe complice des abus, selon Amnesty. L'UE a financé le rapatriement de migrants bloqués en Libye vers leur pays d'origine. Les dirigeants européens ne comptent pas assouplir leur position, surtout après la montée des partis populistes et anti-migrants en Europe.
Les répercussions de l'afflux migratoire en 2016-2015 sont encore ressenties dans la plupart des pays européens. En attendant que l'UE réforme sa politique migratoire et propose des solutions durables, la crise migratoire restera un problème pour les pays européens.
Au plus fort de cet afflux en 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de migrants, ce qui a renforcé le soutien à l'extrême droite et a coûté des voix à la chancelière Angela Merkel lors des élections de septembre. Mais pour ses partisans, sa victoire est la preuve que l'Allemagne et l'Europe peuvent intégrer les migrants. Quant à l'UE, elle est déterminée à fermer les routes migratoires. Malgré les risques de torture, d'abus et de noyades, plus de 160 000 migrants ont fait la traversée en 2017.
Beaucoup de migrants pensent que c'est un échec de rentrer au pays. Timothée Donogma, comment changer petit à petit cette mentalité et de mettre en garde contre les dangers de la migration illégale?
Eh bien, en offrant aux jeunes Africains sur place en Afrique ce qu'ils vont chercher ailleurs en Europe, c'est-à-dire les ressources pour s'épanouir, un emploi, un système de santé, bref, des situations, un contexte social qui favorise le bien-être. Et c'est ce qui manque à ces jeunes Africains. qui se jettent dans ces voyages désespérés.
On va passer à un sujet un peu plus jovial, sportivement. Coupe d'Afrique des Nations, élection du nouveau président de la CAF, jeu de la francophonie, qualification des équipes africaines à la Coupe du Monde 2018. Bref, plusieurs grands événements sportifs ont fait vibrer le continent africain et le reste du monde durant 2017. Yacouba Ouédraogo revient sur les grands événements sportifs qui ont marqué 2017.
A commencé en grande pompe en Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations. 15 ans après, le Cameroun retrouve le trône en battant l'Égypte en finale 2-1 le 5 février au Gabon. Les Lions Indomptables reçoivent le trophée des mains de leur compatriote Issa Hayatou, alors président de la CAF. Coup de tonnerre en mars, Ahmad Ahmad a défié tous les pronostics au cours de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Le Malgache a mis fin au règne du Camerounais Issa Hayatou en poste depuis 1988. Le nouveau président de la CAF lance dès le mois d'août une révolution avec le passage des pays participants à la CAN de 16 à 24 et ce, dès Cameroun 2019. S'en suivra une grosse polémique avec des soupçons sur la volonté du Malgache de vouloir retirer l'organisation de la compétition au pays de Paul Biya qui peine à accélérer les travaux. L'Afrique a aussi vibré pendant les éliminatoires du Mondial 2018. Le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie représenteront le continent en Russie à l'été 2018. En Europe, le Real Madrid a écrit l'une des plus belles pages de son histoire en remportant 5 trophées. La Liga, la Ligue des Champions, les Supercoupes d'Espagne et d'Europe et le Mondial des clubs. Cerise sur le gâteau, sa vedette Cristiano Ronaldo a décroché son 5e ballon d'or France Football. La balle au panier, elle, a souffert sur le continent en 2017. L'Afrobasket a peiné avant d'obtenir 2 terres d'accueil, Tunis et Dakar. Sur ces terres, la Tunisie a remporté la finale en battant le tenant du titre, le Nigeria. Les Super Eagles ont toutefois été soulagés par leurs homologues dames, les 10 Tigers, vainqueurs de l'Afrobasket dames en 2017, devant le Sénégal lors de la finale à Bamako. En athlétisme, un nom a marqué les esprits en Afrique, surtout Marie-Josée Talou. L'athlète ivoirienne a fini sur le podium des mondiaux à Londres, 2 médailles d'argent aux 100 et 200 mètres. Elle, dont le pays a réussi avec brio le pari d'organiser les 8e Jeux de la francophonie. Les performances de cette sprinteuse ne peuvent toutefois pas cacher la retraite de la rock star de l'athlétisme Usain Bolt. Le compteur du Jamaïcain s'est arrêté à 14 médailles mondiales, lui qui a clos sa carrière déjà légendaire sur une blessure à Londres en finale du 4x100 mètres. À tout seigneur, tout honneur au tennis, Rafael Nadal a croqué son 10e sacre à Roland-Garros, devenant le tout premier joueur dans l'histoire du tennis à détenir 10 titres d'un même majeur. Chez les dames, l'incontournable Serena Williams a dominé les débats. L'américaine, 36 ans, a remporté pour la 7e fois l'Open d'Australie en janvier dernier, alors qu'elle était enceinte.
Très rapidement, quels sont vos pronostics pour le mondial de 2018 concernant les 5 équipes africaines?
Bon, en bon Sénégalais, mon pronostic, c'est que le Sénégal ira au deuxième tour.
La balle est ronde, donc tous les espoirs sont permis, mais les Africains doivent aller à ce mondial en toute sérénité et qu'on n'ait plus des questions de primes qui troublent les équipes africaines.
Ainsi s'achève ce dernier Washington Forum de l'année 2017. Un grand merci à nos invités, Timothée Donongma et René Lec. Merci à toute l'équipe pour sa collaboration et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Bonne fête de fin d'année et rendez-vous en 2018 pour une actualité tout aussi fournie et palpitante sur VOA.
santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer.
VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être.
Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts.
Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique.